À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret, mieux communiquer pour mieux vivre, c'est le titre de notre série d'émissions cette semaine. Nous avons eu l'occasion d'entendre des personnes impliquées sur le terrain de la communication interpersonnelle, Jacques Salomé, Christian Reichel, Thierry Lenoir, autant de personnes pour lesquelles favoriser cette communication est le gage d'une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, nous faisons un pas de côté avec un homme de télévision pour interroger notre consommation des médias, éventuel obstacle à la communication authentique. Bienvenue à vous. Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Pierre-Yves.
Dernière édition de cette série Mieux communiquer pour mieux vivre. Et vous ne souhaitiez pas terminer cette série de rencontres sans justement rencontrer un homme de télévision qui produit des émissions et qui en même temps réfléchit à notre consommation des médias aujourd'hui.
Oui, je me suis rendu à Courtaillot dans le canton de Neuchâtel au siège de la TV régionale Canal Alpha pour y rencontrer Pierre-André Léchaud, l'un des co-directeurs de cette TV. Et ce qui est intéressant avec Pierre-André Léchaud, c'est qu'il a la particularité d'être à la fois un homme de TV qui s'est formé sur le tas au moment où les TV régionales ont été lancées en Suisse. Il a ensuite effectué des études en théologie et en communication et aujourd'hui, il dispense régulièrement des formations en matière d'éducation aux médias, que ce soit à des jeunes, des adultes ou même à des enseignants.
Et il a d'ailleurs publié un petit livre de réflexion sur notre consommation des médias.
Oui, ce petit livre s'intitule « Médias, quelle télé, quelle vision ?» avec un point d'interrogation. Et Pierre-André Léchaud l'a co-signé avec un homme de radio français, Alain Stamp. Alors, ce que j'ai d'abord voulu savoir avec Pierre-André Léchaud, c'est si la multiplication des moyens de communication aujourd'hui l'aidait à mieux communiquer.
Je le constate pour moi-même déjà, c'est vrai que j'utilise beaucoup de technologies de l'information et de la communication, je suis pas certain que ça m'aide toujours à bien communiquer, ne serait-ce qu'avec mon épouse, mes enfants ou d'autres personnes autour de moi. Sur le plan d'une télévision régionale comme Canal Alpha, je constate aussi que les micros, les caméras sont utiles pour donner la parole à quelques personnes, mais est-ce qu'elles aident vraiment toutes les personnes qui auraient quelque chose à dire à le faire et à le faire à travers la télévision? Pas toujours. Donc c'est parfois très frustrant, effectivement.
Donc finalement, on le voit au travers du petit livre que vous avez publié, Médias, quelle télévision, vous êtes très critique à l'endroit des outils médiatiques d'aujourd'hui et vous valorisez plutôt l'interpersonnel comme étant la véritable communication.
Alors, je crois que la communication peut utiliser différents véhicules, mais je pense aussi qu'il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas limitée par les véhicules qu'elle utilise. On peut communiquer des choses à travers la télévision, un site internet, une émission de radio ou la presse écrite, mais pas tout. C'est pas une communication globale comme celle qu'on vit dans un face-à-face où on peut se voir, interagir entre les deux et ça communique vraiment dans les deux sens et en continu. Alors, je crois vraiment que chaque technologie peut apporter quelque chose, mais que c'est dommage quand on se prive de cette communication, de cette interaction qu'on peut avoir les uns avec les autres.
Vous-même, vous avez ces dernières années développé pas mal d'interactions dans le cadre de Canal Alpha. Est-ce que finalement, il y a derrière ce désir que vous développez ici, la volonté de rétablir une sorte de communication qui soit véritablement bilatérale ?
Alors c'est bien ça, et à mon sens, ça fait vraiment partie du mandat de service public de proximité pour une TV régionale comme Canal Alpha. Il me semble qu'on n'est pas là juste pour tendre nos micros et poser nos caméras pour rendre compte de ce qui se passe là où on choisit d'aller. On est vraiment là pour dire, il y a une région, il y a plein de choses qui se passent dans cette région, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on soit une plateforme qui facilite la communication. Et pour cela, c'est important qu'on ne soit pas simplement des techniciens qui allons là où l'action se passe, mais qu'on soit aussi ouvert au dialogue, ouvert à la critique. Et c'est pour ça que depuis 2001, Canal Alpha a ouvert ses portes et on essaye vraiment de proposer des visites interactives à toute la population, des groupes de personnes âgées, beaucoup d'enfants de classes d'école qui viennent. Et c'est chaque fois l'occasion d'être à l'écoute de ce que les téléspectatrices, téléspectateurs apprécient ou non. Est-ce qu'ils sentent qu'on s'intéresse à eux? Qui parmi eux est déjà passé à la télévision? Et là, c'est impressionnant parce qu'une TV de proximité, on peut vraiment donner la parole à pas mal de personnes. Et puis, réfléchir avec les personnes qui sont là ensemble en regardant une séquence vidéo, puis en se mettant à la critiquer ensemble, découvrir ensuite les coulisses de la télévision, comment on peut couper les sons, les images. Ça permet à chacune et à chacun de prendre conscience que ce média est un média extraordinaire, il permet beaucoup de choses, mais la communication passe à travers ce canal et elle est ainsi connotée.
Donc pour vous, dans ce contexte, mieux communiquer pour mieux vivre, en tant qu'homme de TV, mieux communiquer pour mieux vivre, c'est vraiment entrer dans cette dynamique d'écoute, de réappropriation de la parole aux téléspectateurs. C'est assez original ça comme perspective, parce que c'est pas un discours qu'on entend très souvent de la part d'hommes de TV.
Alors c'est vrai qu'au tout début du travail dans la télévision, j'ai appris sur le tas hein, à faire des images, des sons et à faire du montage. Et puis à ce moment-là, je me posais pas beaucoup de questions. Et c'est après avoir eu l'occasion de suivre des études en théologie et en communication à travers les médias que je me suis posé beaucoup plus de questions. Et je me suis dit, il faut pas seulement utiliser les technologies de l'information, mais il faut vraiment que la communication soit associée aussi intimement. Et moi, j'aime beaucoup l'outil télévisuel. J'en mesure aussi les contraintes hein, et le fait qu'on ne peut pas tout dire à la télévision. Ce n'est pas un média qui est vraiment bien pour développer une longue pensée philosophique ou politique. C'est le média de la petite phrase, de l'apparence, de l'image, qui est très bien pour ça. Mais ça vaut la peine justement de se dire que la communication est bien plus vaste que ce qui peut passer à travers la télévision. Et c'est vraiment génial de pouvoir être à la rencontre des personnes et de pouvoir développer ce thème-là. Alors peut-être pas sur les ondes de la télévision, mais à travers les visites et l'interaction qui peut se dérouler dans ce cadre.
Pierre-André Leschaux, cela fait de nombreuses années que vous faites de la TV. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans l'éducation aux médias ?
L'envie de réfléchir avec différentes personnes par rapport aux images et aux sons que l'on entend dans les séquences audiovisuelles.
Et vous avez parlé tout à l'heure de frustration. Est-ce que finalement, c'est là l'origine de ce désir de se dire « mais il faut absolument qu'on montre comment est-ce que la TV fonctionne ?»
Beaucoup plus simplement, c'est en voyant l'intérêt que les gens ont lors d'une visite, d'en savoir un peu plus. Petit à petit, j'ai développé des visites vraiment interactives, en projetant aussi des petites séquences audiovisuelles et en prenant le temps de les discuter.
Est-ce qu'à certains égards, vous n'avez pas eu peur, parfois, peut-être, de la puissance de l'outil que vous étiez en train de manier ?
Alors c'est vrai que je crois que c'est un outil bien puissant qui se trouve là. Une première expérience dont je me rappellerai toujours, quand on a repris la télévision avec Joël Pelet et Marcello Del Zio, les premiers contacts avec les personnes politiques du canton, on a organisé un débat et puis il y a une personnalité politique qui est venue. Et puis moi j'étais tout intimidé, je me suis dit « Ouh là là, comment je vais la saluer, comment ça va se passer ?» Puis cette personne est venue, puis elle s'est baissée très profondément pour me saluer. Puis je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Puis en y réfléchissant, je me suis dit « Mais elle a salué l'homme de médias, celui qui a la télévision régionale et qui peut peut-être procéder à différents choix. » Et j'ai pris là conscience, c'est vrai, du rôle que jouent les médias, de la puissance qui est attachée aussi à ces médias. C'est pour ça que c'est vrai que de réfléchir aux médias et de le faire avec les téléspectatrices, téléspectateurs qu'on rencontre, ça me paraît être quelque chose de très important.
Alors depuis quelques années, vous développez tout un volet d'activités dans le cadre de Canal Alpha autour de l'éducation aux médias. Vous recevez des classes d'école. Quel est l'axe principal de cette éducation que vous tentez de promouvoir ?
On essaye d'avoir des activités sur deux plans. Premièrement, une activité sur le plan analytique, c'est-à-dire avec les classes d'école, de leur expliquer ce qu'est une télévision, comment ça fonctionne, d'où vient l'argent, comment c'est utilisé, quels sont les métiers qu'on y trouve. On fait une visite interactive où les gens peuvent voir un téléprompteur, une cabine son, le studio TV.
Bon, ça, ce sont les outils. Hein. C'est quelque part l'occasion peut-être de désacraliser le média.
Oui, tout à fait. Mais aussi d'expliquer déjà un peu des technologies qui sont utilisées et d'aider à prendre conscience ensuite que le résultat qu'on voit à l'écran dépend des technologies qui sont à disposition. Ce que l'on peut faire en termes de traitement d'image, de coupe, de réagencement des choses, tout cela, on peut l'expliquer puis ensuite le montrer avec une séquence audiovisuelle. Et là, l'idée, c'est de ça arrêter sur les sons, sur les images, sur les paroles, et puis de réfléchir un peu comment c'est construit, qu'est-ce qu'on nous montre. Je prends souvent une publicité ou des publicités. C'est très apprécié, c'est assez court, on peut prendre beaucoup de temps pour en parler, et c'est intéressant. Deuxième axe pour moi qui est fondamental, c'est de donner l'outil de production aux élèves, par exemple, et de leur dire, voilà, avec cette caméra, avec ce micro, produisez quelque chose.
Donc là, ils se transforment en journaliste ou en caméraman ou en monteur.
Exactement. Et l'idée, c'est, en une heure, par exemple, de confectionner un petit spot de publicité. Alors on sépare la classe en trois groupes, par exemple, chacun réfléchit un peu à un scénario, on fait un concours d'idées, puis ensuite, le scénario qui est choisi, on le filme. Alors je donne des conseils, évidemment, mais les élèves portent la caméra, le micro, font les actrices et les acteurs, et à l'issue d'une vingtaine de minutes de tournage, on fait le montage ensemble sur grand écran, et c'est les élèves qui me disent « Ah, on va choisir telle musique, on va mettre ce plan et pas celui-là, etc. »
Et j'imagine que là, la fascination des élèves est totale.
Alors oui, et puis c'est vrai qu'à mon sens, ce qui est très important, c'est d'aboutir au bout d'une heure, par exemple, à un produit fini, pour qu'ils se rendent compte qu'on arrive assez rapidement à créer une petite histoire, à la jouer, à la filmer, à la capter au niveau du son, et à la monter et à la présenter. Et ce qui impressionne toujours les élèves, alors, c'est la facilité de couper une mauvaise liaison, de couvrir deux morceaux d'interview que l'on répond avec une image et de rendre ainsi la coupe invisible, voire inaudible. Il y a des choses vraiment excellentes là qu'on peut montrer par la pratique.
On a l'impression, en vous entendant là, que vous faites quelque part avec ces élèves une sorte de découverte du média TV, mais vous n'êtes pas encore dans une véritable éducation aux médias.
Ah, il me semble quand même que c'est assez fondamental ça, de découvrir le potentiel, hein, et puis ce langage médiatique, ben, les ingrédients de base, c'est quoi, hein? C'est quoi le matériau image, le matériau son? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on arrange ces choses les unes derrière les autres? C'est quoi la grammaire qui est utilisée?
En même temps, vous n'êtes pas dans une dynamique de gestion du média lui-même. Parce que quand on entend éducation média, peut-être qu'on pense à la manière dont des adolescents ou des jeunes ou des enfants même peuvent rester avachis pendant des heures devant un poste de TV.
Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que mon approche d'éducation média serait plus de dire que chacune et chacun ait conscience de comment les médias fonctionnent pour ensuite faire les choix et puis réajuster éventuellement le temps que je prends devant la télévision ou à lire ou à jouer à des consoles de jeux, etc. Mais moi, je crois plus qu'il faut équiper les gens avec des notions fondamentales, un peu comme quand on apprend à lire et à écrire. Quelque part, l'école, le système scolaire nous a pris beaucoup de temps pour qu'on maîtrise l'approche de l'écriture, la découverte du poids des mots, de leur agencement, nous donner la capacité de reconnaître aussi un texte, une catégorie, un genre. Et tout cela, dans l'audiovisuel, on peut le faire. À mon avis, on doit le faire parce que c'est vraiment important. Et puis, ben, lorsque les élèves arrivent à reconnaître une émission de type fiction par rapport à une émission qui traite de la réalité ou encore en rapport avec la publicité ou des émissions de jeux, il y a quelque chose de fondamental qui se passe. Lorsque l'élève arrive à se dire et à vraiment réaliser que ce n'est pas parce que je vois une image en mouvement que existe vraiment l'objet ou la personne qui m'est montrée, parce qu'on arrive à le démontrer avec des technologies de transformation d'image, par exemple, là aussi, il y a quelque chose qui est assez fondamental qui se passe, à mon sens.
Alors Pierre-André Leschaud, vous venez de nous parler un peu de la manière dont vous accompagnez des jeunes, des adultes, des enfants aussi, à la découverte du Média TV. Mais vous avez, dans un petit livre qui s'intitule « Média, quelle télévision ?», vous avez développé dans le cadre de ce livre tout un chapitre sur une analyse, une réflexion de la manière dont on consomme des médias. Donc cette dynamique-là d'éducation aux médias vous intéresse aussi.
Tout à fait. C'est vrai que je suis assez frappé par le temps que l'on prend et qu'on consacre, si on peut utiliser ce mot-là, aux médias.
En Suisse, c'est tout à fait considérable.
Alors on est à 163 minutes, sauf erreur, par jour, hein, pour la consommation uniquement de l'outil télévisuel. On sait qu'on écoute beaucoup la radio, qu'on lit beaucoup la presse aussi. Et si on compte le temps passé derrière l'écran pour l'ordinateur, les consoles de jeux ou maintenant le téléphone portable avec les multiples services qui y sont associés, cela fait beaucoup. Aux États-Unis, on dit qu'un jeune passe en moyenne 8h30 face aux médias dans un laps de temps de 6h30 parce qu'il y a de la consommation de plusieurs médias en une seule fois de temps à autre.
Vous-même, quand vous lisez de telles statistiques, ça vous alarme, ça vous inquiète ?
Pas autrement, parce que je trouve que les médias sont d'une telle richesse et nous permettent de vivre des choses assez extraordinaires. Ce qui m'inquiète plus, c'est au détriment de quoi ces heures-là de consommation média peuvent-elles se vivre ? Je pose souvent, lorsque j'ai une visite de classe ou avec des adultes, une question, c'est la question du souvenir. Réfléchissez à un bon souvenir qui vous reste durant ces 6 derniers mois. Un souvenir que vous auriez plaisir à partager, et puis lorsque vous y pensez, vous avez le sourire qui revient sur les lèvres. Puis ensuite, je pose une deuxième question. Levez la main si ce souvenir est lié à l'utilisation d'un média.
Et là, 50% des gens lèvent la main ?
Alors non, de 1 à 2% de personnes lèvent la main et c'est tout. Et je les constater avec des personnes âgées, avec des très jeunes enfants, avec des adolescents, avec des adultes de tous côtés.
Et ça doit être très frustrant pour un homme de TV de découvrir que son métier a somme toute si peu d'impact sur le bonheur et le bien-être des spectateurs.
Alors ça dépend, si le bon moment, si le bon souvenir, ben c'est suite à une émission sur Canal Alpha, quelqu'un a eu l'idée d'aller visiter tel musée ou de procéder à telle activité, ça va bien. Moi ce que je trouve très intéressant, c'est de constater que nos bons souvenirs dans la vie nous viennent d'expériences réelles. Et la plupart du temps vécues à plusieurs, en communication, en communion avec quelqu'une ou quelqu'un. Le chiffre de la consommation des différents médias, le temps que cela nous prend, mis en rapport avec, dans notre vie finalement, de quoi on se rappelle, et qu'est-ce qui fait la valeur de la vie, et quels sont les bons souvenirs de la vie, je me dis que là, il y a peut-être parfois un questionnement qui est sain à reprendre.
Alors dans le cadre de ce petit livre qui s'intitule « Média, quelle télévision ?», vous proposez une sorte de réflexion qui commence par une interrogation. Quel est mon rapport aux médias? Quel lieu, quelle activité ce média vient remplacer dans le cadre du quotidien de mon existence? Vous le faites encore, cela? Vous le proposez dans certains groupes? Et quelles sont les réactions qui en émanent?
Je le propose, alors très volontiers, parce que je me dis par exemple que si en Suisse romande, on se dit, on regarde en moyenne près de 3 heures la télé chaque jour, sur une année, ça représente 43 jours, 24 heures sur 24. Et sur une vie moyenne occidentale, 12 années de vie.
C'est impressionnant quand on y pense. Hein, 12 années de vie passées derrière un poste ou un écran.
Voilà. Et c'est vrai que ben, quand je pose la question, même aux plus jeunes, est-ce qu'on est toujours satisfait après avoir regardé la télévision? Ben, pas toujours. Ça dépend ce qu'on choisit, ça dépend comment on le vit, etc. Donc, prendre conscience de ce chiffre, pour moi, c'est quelque chose d'important. Comme prendre conscience de l'environnement, les lieux. Et je me dis toujours, si une équipe d'anthropologues venait visiter nos lieux d'habitation, qu'est-ce qu'ils diraient? Où est l'essentiel? Et peut-être que dans nos foyers, dans le salon, trône au milieu de la pièce, un objet...
Un gigantesque écran voilà, HD.
Voilà, avec peut-être tous les sièges confortables placés en direction de l'objet.
Donc là, dans le cadre de cette formation, de cette réflexion que vous proposez à différents en groupe, ici en Suisse romande et ailleurs aussi, la première question qui intervient, c'est quel est mon rapport aux médias TV ou aux médias en général. La deuxième de ces questions, c'est d'essayer de prendre conscience des différents types de médias qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est important de poser une telle question, de prendre conscience que finalement, on est environné de toutes sortes de médias, radio, TV, journaux, ordinateurs, Internet, etc.
Il me semble que oui, dans la mesure où l'être humain, à mon sens, et moi je le vis personnellement, on tombe vite dans des habitudes, ou on reste vite dans des habitudes. Or, les médias aujourd'hui nous proposent voilà, un foisonnement d'émissions, de programmes intéressants.
Que vous invitez à découvrir.
Exactement. L'idée, c'est essayons de choisir le mieux possible ce qui nous intéresse, ce qui nous divertit vraiment, ce qui nous apporte une vraie information, voire qui participe à notre éducation aussi. Donc l'idée de faire le point un peu et de se dire, ben, pour telle envie, quel média je peux utiliser? Par exemple, j'aimerais qu'on me raconte une histoire. Bon, je prends parfois la comparaison entre une bande dessinée et un dessin animé. Puis souvent les jeunes disent, ah ben on veut voir le dessin animé. Bon d'accord, alors regardons un bout de dessin animé Tintin, puis ensuite on prend la bande dessinée, puis on lit 3 pages de bande dessinée à plusieurs voix. Et puis je peux vous promettre qu'à la fin, ils disent, mais finalement la bande dessinée c'est pas mal, hein, parce qu'il y a plein de choses qui se passent avec la BD différemment d'avec la télévision. Donc c'est plus pour avoir accès à cette richesse, et puis pour avoir aussi un choix avec plus de possibilités, de se dire... Où est-ce que je cherche l'information, le divertissement ou l'éducation?
Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les gens font véritablement des choix ou finalement, ils sont un peu dans, excusez le terme, des ornières d'habitude qui font qu'ils consomment un peu ce qu'ils ont toujours consommé?
Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part la surabondance de possibilités et d'autre part notre besoin de pouvoir parler le lendemain de ce qu'on a vu, entendu ou effectué. Donc on est un petit peu en tension entre ces deux choses, quoi. Il y aurait tellement de choses à découvrir, puis en même temps, on n'aime pas trop être largué par rapport aux conversations dans la vie de tous les jours. Et donc si quelqu'un se met à regarder telle série TV ou tel jeu, ben, on aura peut-être tendance à rester à l'écoute de ce truc-là pour pouvoir en parler le lendemain.
Pierre-André Deschaux, si on poursuit un peu ce petit parcours de formation que vous proposez dans le cadre de ce petit livre Média, quelle télévision, la troisième question que vous invitez les gens à se poser, c'est celle de savoir qui possède le média qui est regardé, qui est lu, qui est écouté. Pourquoi cet intérêt à essayer un peu de décortiquer qui produit telle ou telle émission ou tel ou tel programme ?
Alors l'idée, c'est évidemment de se recadrer dans le cadre d'une situation de communication et de se dire qui parle, qui est l'émetteur, au fond qui décide hein, des choses qui nous sont proposées. Et c'est parfois, on regarde les programmes, on est là devant la télévision, et puis on a de la peine à prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Une autre question, à mon avis, qui est fondamentale, c'est qui gagne quoi hein, c'est le programme qui m'est proposé là, ben, il a été financé comment? Et ça peut aider à prendre conscience de différents paramètres. Hein, par exemple, est-ce que dans ce programme, il y a ou pas de la publicité? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une question fondamentale. En principe, en Suisse, on doit délimiter les espaces dédiés à la publicité par des jingles ou des génériques. Maintenant, on sait que dans certains films, par exemple, il y a des produits que l'on voit, parfois de manière très appuyée, et c'est du placement de produits, c'est de la publicité, sans le dire, qui se trouve là. Je pense que voilà, d'affiner son regard et de se demander qui gagne quoi et qui parle, qui est l'émetteur, est quelque chose d'important.
Vous invitez aussi, question supplémentaire, question suivante, à vous interroger ou à nous interroger sur la qualité journalistique ou programmatique des différents produits qui sont consommés. Alors pourquoi cette quatrième question ?
Alors la quatrième question pour moi, c'est juste prendre conscience de ce qu'on me dit et de la manière dont c'est dit, qu'est-ce qui m'est offert à voir, à entendre. Et puis la question que j'aime bien rajouter, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'est-ce qu'on n'entend pas. Je trouve très intéressant de suivre un journal télévisé complet et à l'issue du JT, de se demander de quoi on a parlé et de quoi on n'a pas parlé, de quoi on aurait pu parler dans le cadre de ce journal télévisé, comparé à ce que la presse va nous dire ou ce qu'on trouve sur les sites internet ou sur des journaux télévisés d'autres chaînes. Une autre question intéressante, c'est à qui on donne la parole? Est-ce que tous et toutes ont pu s'exprimer? Quand est-ce qu'on donne la parole à des jeunes, par exemple, dans le cadre des journaux télévisés? Ces questions-là me semblent intéressantes. Et aussi sur le plan de la qualité, parfois on entend des personnes qui disent dans les médias, s'il y a du sexe et de la violence, alors c'est pas bien. Et moi je dis, il faut pas en rester là. Il peut y avoir des programmes sans sexe, sans violence, mais sans scénario, sans bons acteurs.
Ils sont mauvais.
Voilà, sans éléments pertinents ou intéressants. Et donc sur le plan qualitatif, je pense que c'est aussi important là qu'on se redemande, mais finalement qu'est-ce que je cherche, quelles sont mes attentes par rapport à un programme de télévision, et est-ce que ce programme que je vais regarder répond à ces attentes? Et peut-être cette question numéro 4, elle permet de prendre un petit peu de recul par rapport à soi en fixant, si je veux de l'information, quel genre d'information je souhaite, quels outils je souhaite avoir en main pour voir si tout m'a été dit ou bien s'il y a des compléments d'information que je peux trouver, si c'est du divertissement, voilà, qu'est-ce que je souhaite aussi trouver dans le divertissement, quelle qualité esthétique, quelle qualité de narration, etc. Et ça peut aider à faire des choix aussi.
Vous-même, personnellement, vous avez l'impression que vous passez en revue ces différentes questions et que vous façonnez votre consommation de médias en fonction de ces choix ?
Alors je crois que je suis un petit peu comme tous les êtres humains, dans le sens où je sais quelles sont les bonnes questions à se poser, mais quand je suis tout seul, je me les pose rarement. Et c'est vrai que c'est quand je suis en interaction avec d'autres personnes et que je réfléchis à ces questions-là que tout d'un coup, je me dis, en partageant ces réflexions, oui, faudra peut-être que je revoie aussi pour moi les conséquences que j'en tire.
Deschaux, à la fin de ce petit livre Média, quelle télévision, vous invitez à inscrire dans nos vies des priorités que vous appelez communicationnelles. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors c'est cette idée que le temps que l'on passe avec les différents médias peut parfois réduire le temps passé en situation interpersonnelle avec des gens, à faire quelque chose, découvrir, passer du temps. Et donc l'idée c'est de se dire les médias, pourquoi on veut les utiliser, qu'est-ce qu'ils nous apportent, est-ce que je suis sûr de connaître tout le potentiel des différents médias, et là je pense que c'est vraiment chaque jour à reprendre, hein, à découvrir peut-être des nouveaux éléments. J'aime bien proposer par exemple de faire une sorte de budget médiatique et de se dire en une semaine, si j'avais à tout commencer, combien de temps je voudrais dédier à la radio, combien à la télévision, au cinéma, Internet, presse ou autre. Et puis ensuite, de se dire, ben, dans ce laps de temps-là, qu'est-ce que je vais choisir? Et puis ensuite, on prend une habitude pendant un mois, puis ensuite, on se dit, un mois après, maintenant, qu'est-ce que je pourrais changer? Hein, il y a une émission là, juste après, je l'ai regardée, mais est-ce qu'il n'y en a pas une meilleure qui est là? Et peut-être ça peut permettre de ne pas passer à côté hein, d'émissions ou de programmes qui seraient très intéressants. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que je pense que discuter des médias, c'est vraiment une activité que les gens apprécient beaucoup. Et peut-être qu'on ne se donne pas assez l'occasion de le faire. Hein, de, par exemple, de se dire, on va se faire une soirée, on va regarder un film, puis on en parle après. Hein, pas pendant le film surtout, mais après. Ou alors, on va se faire une soirée pub. On enregistre chacun une dizaine de pubs qu'on aime le plus, on les apporte, on les regarde, et puis on essaye de réfléchir pourquoi on les aime, qu'est-ce qui se passe avec ces pubs.
Pierre-René Leschaud, vous avez fait des études de théologie. Alors en quoi les convictions chrétiennes qui vous habitent influent-elles dans cette gestion de la consommation télévisuelle ou de la consommation médiatique?
Alors je dirais pour moi en tout cas une chose qui est fondamentale, c'est ce droit de chacune et chacun à s'exprimer, à réagir aussi de manière particulière à une image, et ça c'est quelque chose de frappant. Je montre à chaque visite une photographie, enfin une peinture de deux enfants face à un écran de télévision, et les deux ont un visage qui exprime pour un la fatigue, pour l'autre la petite fille peut-être plutôt de la peur ou en tout cas un étonnement par rapport à ce qu'elle voit. Et je demande à tout le monde de commenter cette image, et je suis toujours intéressé par tout ce qu'on peut voir simplement dans une image. Or la TV c'est 25 images secondes, ça n'arrête pas, et pour moi alors, j'ai vraiment ce désir d'être à l'écoute de ce que chaque personne a à dire. Et pour moi, c'est peut-être un piège des médias aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un flux d'informations et de divertissements. Et je me dis qu'on reçoit, on reçoit, on reçoit beaucoup, mais à quel moment est-ce qu'on peut dire quelque chose, se positionner par rapport à cela? Et il me semble qu'il y a une inégalité par rapport à cela. Il y a des jeunes enfants qui ont des difficultés peut-être même familiales difficiles, des parents qui ne peuvent pas prendre beaucoup de temps avec les enfants, des situations aussi au niveau de revenus qui sont difficiles. Ces enfants-là peuvent peut-être regarder beaucoup la télévision ou les jeux vidéo ou autres, mais à quel moment est-ce qu'ils peuvent s'exprimer par rapport à cela?
Donc là, vos convictions chrétiennes viennent quelque part vous stimuler dans une sorte de restitution de la parole aux consommateurs médiatiques.
Oui, et ben, il y a ce souci que Jésus a montré, hein, le souci du plus pauvre, du plus démuni. Et je suis quand même assez frappé de voir que les médias aujourd'hui créent de nouvelles barrières. Il y a la barrière déjà de ceux qui ont les nouveaux médias, les nouvelles technologies, de ceux qui ne l'ont pas, hein, ça c'est une chose, les infos riches et les infos pauvres, mais il y a aussi, à mon sens, ceux qui savent bien utiliser les médias, qui savent choisir, qui ont un accompagnement parental, par exemple, assez strict, en disant, ben, tu regarderas la télé quand tu auras fait tes devoirs, hein, et voilà, il y a un cadre qui est là, et c'est certainement très sain. Et il y a celles et ceux, malheureusement, qui n'ont pas ce cadre ou cet accompagnement. Et c'est pour ces personnes-là, à mon sens, qu'une éducation aux médias devrait être un peu comme l'alphabétisation, être proposé à toutes et à tous et donner les mêmes chances d'accès et de choix aux médias à tous et à toutes.
Pierre-André Leschaud, l'un des co-directeurs de la télévision régionale neuchâteloise Canal Alpha, que vous nous proposiez d'entendre aujourd'hui, Serge Carrel.
Oui, en début de semaine, nous avons entendu le psychologue Jacques Salomé, vous l'avez peut-être entendu, nous mettre en garde contre le leurre que peut constituer la consommation de médias aujourd'hui. Un peu selon l'adage, trop de médias tuent la communication. Alors il était intéressant d'entendre Pierre-André Leschaud souscrire à la mise en garde de Jacques Salomé et dans le même temps proposer un regard à la fois positif et critique sur notre consommation de médias.
Et nous pouvons préciser, Serge, que vous avez placé toutes les références des publications de vos interlocuteurs sur notre site internet religion.rsr.ch.
Oui, on peut juste mentionner qu'il y a aussi un petit site de Pierre-André Leschaud où toute sa démarche est proposée et il vaut le déplacement.
Et on le trouve d'ailleurs donc sur notre site.
Effectivement, sur le site religion.rsr.ch.
On peut préciser qu'il est aussi possible via ce site de réécouter les émissions de cette semaine autour du thème « Mieux communiquer pour mieux vivre ». La semaine prochaine, La Vue d'Esprit vous emmène au croisement des racines spirituelle de l'Europe entre Orient et Occident en compagnie d'Evelyne Auberçon. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Jérôme Nussbaum, Gérald Diestan et Patrick Lenoir signaient la réalisation de ces émissions. Aujourd'hui, c'est vendredi, vous avez rendez-vous avec Zone Critique juste après les informations. Bonne journée et nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bon week-end.